grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, nous recevons l'un des meilleurs ambassadeurs des arbres sur notre planète, le forestier allemand Peter Wohleben, qui a connu un immense succès, mérité, avec son premier livre, La vie secrète des arbres. Dans son nouvel opus, Le réseau secret de la nature, Peter Wohleben nous explique les liens subtils qui unissent les êtres vivants dans notre écosystème. Sous la main de l'homme, la nature subit évidemment des modifications plus ou moins bénéfiques et des saccages, avec des répercussions souvent insoupçonnées et parfois irréversibles. Nous verrons également quels sont les liens subtils qui rassemblent la faune, la flore et le climat. Que se passe-t-il par exemple quand on retire un rouage à la grande horloge qu'est la nature, si forte et si fragile à la fois? Nous verrons pourquoi les arbres contribuent à la formation des nuages ou pourquoi les loups contribuent à protéger la forêt. Avec nous pour converser, avec Peter Wohleben, le spécialiste de la biodiversité, Laurent Tillon. Toutes vos questions et réactions ce matin sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Et pour remplacer Guillemette Odissino et son esprit d'escalier, ce matin, une amoureuse des arbres, Christina Pelédouelle.
Oui, une grande amoureuse des arbres, oui.
C'est bien connu dans cette émission.
Amoureuse des arbres et propriétaire d'arbres aussi.
À tout à l'heure. Et vous retrouverez en fin d'émission l'éternel retour d'Éric Libio de l'Express. Éric Libio qui n'est pas encore arrivé. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Guten Tag, Peter Wohleben.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La vie secrète des arbres, immense succès en France et en Allemagne. Après La vie secrète des animaux, vous proposez un troisième volet, Le réseau secret de la nature, sous-titré De l'influence des arbres sur les nuages et du ver de terre sur le sanglier. C'est publié aux Arènes. Alors, avant de plonger avec plaisir dans les méandres de votre nouvel opus, j'aimerais savoir pourquoi, selon vous, La vie secrète des arbres a touché avec autant de force le cœur des lecteurs.
C'est tout à fait normal.
Nous pensons toujours que nous sommes un phénomène exceptionnel, mais nous faisons partie intégrante de la nature. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait cet engouement.
Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire ce best-seller, quelle était la thèse principale que vous défendiez? L'entraide entre les arbres, peut-être?
La thèse principale du nouveau livre est la suivante. La nature est extrêmement compliquée et nous ne pouvons pas la comprendre dans son intégralité. Si nous voulons faire quelque chose pour la nature, eh bien, il faut tout simplement la laisser tranquille puisqu'elle est extrêmement complexe. Donc, je pense qu'il vaut mieux la laisser tranquille plutôt que tenter de la manipuler.
Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire le premier livre, quelle était la principale thèse que vous défendiez? L'entraide entre les arbres, peut-être?
Alors, dans le premier livre, je mets l'arbre au cœur de mon livre, qui est un peu comme un éléphant en termes de plantes. Donc, ils ont des familles, ils communiquent les uns avec les autres, ils peuvent ressentir de la douleur. Et on peut dire que c'est un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux, vous savez, ils ont des sensations, on peut dire que c'est un peu ésotérique, mais même la recherche la plus prudente a fini par le reconnaître. Le problème, c'est que cette recherche le formule de manière beaucoup trop compliquée. Je suis un petit peu comme un interprète, si vous voulez, vulgarisateur des résultats scientifiques. Et la science, je peux vous le dire, est beaucoup plus intéressante que tous les contes qu'on peut se raconter.
Alors certains ont pu vous reprocher d'animaliser, d'humaniser les arbres en parlant de bien-être, de douceur, de souffrance, d'amitié, d'appel à l'aide, de comportement, de langage et même d'organisation sociale.
C'est un reproche extrêmement intéressant, puisque j'aurais pu aussi écrire le livre en langue arbre, et mais personne ne l'aurait compris. Par conséquent, je dois faire une comparaison. Naturellement, les arbres n'ont pas d'oreilles, ils ont des racines, ils n'ont pas de poitrine pour allaiter, ils le font de leur propre manière, avec leurs racines. Ils voient avec leurs feuilles, pas avec une paire d'yeux. Mais il faut amener cette comparaison, sinon nous ne pouvons pas l'intérioriser ni le comprendre.
Christina Pelédouelle, comment expliquez-vous l'immense succès de la vie secrète des arbres? Dans un monde flou peut-être, instable, les arbres, les forêts sont des pôles de stabilité, ce sont les racines dont nous avons le plus besoin en ce moment.
Oui, je pense que Il y a ça, il y a la beauté des arbres aussi qui nous touche tous. L'intérêt, par exemple, du public pour les promenades en forêt, pour les bains de forêt participe de ça. Je pense que c'est le manque que nous avons tous, en particulier dans les villes, le manque d'arbres qui nous pousse à nous intéresser à ce qui se passe. Et puis, d'une manière plus générale, c'est l'intérêt pour l'écologie et l'environnement au sens large. Et là, c'est de l'environnement et de l'écologie qui est juste là, même au coin de la rue, devant Radio France. Il y a des arbres, il suffit d'ouvrir les yeux et de se poser la question. Et ce que nous fait découvrir Peter, c'est vraiment la proximité et le lien entre les arbres et nous. Et je pense que c'est ça qui touche beaucoup le public. Ils n'apparaissent plus comme juste des ornements, mais comme véritablement des êtres vivants. Et donc, en effet, ce que vous venez de dire, Ali, des êtres quasiment pensant, pas la même pensée que nous, mais une autre forme de pensée.
Laurent Tillon, vous êtes chargé de mission en biodiversité à l'Office national des forêts, vous êtes membre du Conseil national des forêts, et vous avez publié chez Payot « Et si on écoutait la nature ». Peter Veleben est un conteur hors pair, hein, qui puise dans des sources scientifiques très rigoureuses.
Oui, et en fait, ce qui est important à bien considérer, c'est que il a pu vulgariser l'importance qu'avaient les arbres dans notre environnement au quotidien et en même temps la complexité de toutes les relations qui pouvaient exister entre les différents organismes. Alors après, on parle notamment d'intelligence des arbres, d'intelligence de la nature. Ce qui est très certain, c'est qu'il y a des relations qui sont très fortes entre les espèces, donc déjà au sein des espèces, entre un arbre adulte et les autres arbres qui l'entourent, on sait qu'il y a des communications par les racines, aussi par les émissions, notamment de certaines molécules volatiles qui peuvent être dispersées dans l'air, mais aussi avec des relations très complexes avec les autres espèces. Ça a toujours été quelque chose de difficile à appréhender, à percevoir par les scientifiques, mais aussi par les naturalistes et encore plus par le grand public. Ces relations étant très compliquées à mettre en évidence, l'un des intérêts notamment du livre de Peter Veleben, comme de tout un tas d'autres livres qui courent en ce moment sur la nature, c'est de réussir à expliquer, et c'est là le succès aussi de ce livre, de réussir à expliquer, à vulgariser simplement toutes ces relations complexes.
Peter Veleben, comment êtes-vous passé de coupeur d'arbres, comme vous l'écrivez, dans une autre vie, à gardien de l'intégrité des arbres dans une hêtraie de la région de l'Eifel, à l'ouest de la Rhénanie? Comment on passe, entre guillemets, d'un extrême à l'autre?
Parce que
j'avais 6 ans, j'avais déjà envie de devenir un défenseur de la nature. Puis j'ai étudié la sylviculture, je me disais que les forestiers étaient des protecteurs de la forêt, si vous voulez.
Et
les forestiers produisent du bois, et ce qui est tout à fait normal. Le bois est une magnifique matière première, et sans le bois, on ne pourrait pas imprimer des livres, par exemple, on n'aurait pas de papier. Simplement, la façon dont la sylviculture est exercée au niveau mondial actuellement est beaucoup trop brutale. C'est un peu, si vous voulez, comme de l'élevage industriel d'arbres. Et ça m'a fait profondément mal de le constater. Et j'ai tenté de changer les choses. J'ai tenté de développer d'autres méthodes, de ne plus utiliser de grosses machines, mais d'employer des chevaux. J'ai tenté de protéger des plus grands espaces forestiers. Et je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux, et mes arbres aussi.
Alors, vous consacrez votre nouveau livre au réseau secret de la nature. Mais c'est quoi exactement la nature? Il existe autant de définitions que d'amoureux de la nature.
C'est une question extrêmement difficile. J'aime y répondre de manière simple. La nature, c'est l'inverse. C'est l'inverse de la culture. On peut bien se dire que l'homme fait partie de la nature. Mais lorsque je dis que tout est nature, même ce studio, j'ai besoin de mettre en place des espaces de protection de la nature. Non, la nature, c'est vraiment pour moi ce qu'on doit défendre. Ça ne peut être que des espaces, à mon avis, dans lesquels l'homme arrête de s'impliquer trop activement. C'est un petit peu difficile. Qu'est-ce que ça veut dire s'activer impliquement? Lorsqu'on parle de pollution de l'air, lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on s'implique partout. Donc je pense que c'est vraiment des espaces dans lesquels on doit cesser de s'impliquer. Il n'y a pas qu'une forêt primaire qui fait partie de la nature. Si les Parisiens, par exemple, cessent de s'occuper d'un de leurs parcs, on a de nouveau de la nature. La nature est un processus, ce n'est pas un inventaire terminé, si vous voulez.
C'est quoi la nature pour vous, Laurent Tillon? Est-ce que c'est la même chose que la biodiversité?
Mais en fait, la biodiversité fait partie de la nature. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que quand on est dans un espace quel qu'il soit, que ce soit un espace urbain ou même un espace forestier très complexe, il y a toujours des espèces qui nous entourent. Alors, en fonction, effectivement, du fait qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne ou qu'on soit en forêt, dans une forêt, par exemple, très préservée, la complexité des interactions va être particulièrement différente. Dans un milieu urbain, généralement, elle est un peu plus simple, un peu plus appauvrie. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de bien comprendre les espèces avec toutes les interactions entre elles, avec les interactions qu'elles peuvent avoir avec l'air, avec le sol et avec tous les espaces qui sont à côté. Alors, après, faire une grande part des choses en ayant des espaces 100% dédiés à la nature, des espaces 100% dédiés à notamment à l'homme et puis aux espaces urbains, ça peut être un petit peu compliqué dans la mesure où finalement les interactions, elles sont permanentes et c'est difficile d'empêcher notamment l'homme d'accéder à des espaces de nature.
Peter Willeben.
Ja, richtig. Das und da sieht man schon, dass es gar nicht so einfach ist, das.
On voit que ça n'est pas simple. Et je suis du même avis que vous. Même dans les territoires protégés, on n'arrive pas à exclure complètement l'homme. Mais peut-être qu'on peut dire qu'on exclut l'homme avec sa scie sauteuse.
Christine Lapelle-Edouel.
Oui, ça c'est une bonne idée d'exclure la scie sauteuse. Je suis assez pour, en tout cas en ce qui concerne l'exploitation exacerbée et énorme des forêts, y compris les forêts européennes. Hein, il n'y a pas, même si c'est contrôlé. Et c'est ce rapport. Alors, ce que je trouve vraiment, si je peux me permettre, ce que je trouve très très intéressant dans votre livre,
le réseau secret de la nature.
Le réseau secret de la nature, c'est la manière dont vous faites apparaître à quel point nous sommes, nous, humains, liés avec la nature et à quel point nos propres comportements peuvent avoir une influence, même si on n'en a pas conscience, une influence directe et immédiate sur des processus très complexes. Par exemple, alors c'est un exemple que tout le monde connaît, hein, bouger un caillou sur la plage peut entraîner des mini-catastrophes, c'est-à-dire qu'on dérange un petit écosystème. Mais de la même manière, aller en forêt et faire du VTT à travers les massifs, c'est catastrophique. Et ça, je peux vous dire, je le vois absolument sans arrêt.
En forêt de Fontainebleau.
Voilà, en forêt de Fontainebleau. Et des tas de choses comme ça. Alors, avec la meilleure volonté du monde, on peut se retrouver à, en fait, avoir une action néfaste, alors qu'on espérait avoir une action bénéfique.
Peter Willeben.
Ja, also ein anderes Beispiel sind Solarlampen für den Garten.
C'est les lampes solaires qu'on met dans son jardin. On pense que c'est écologique.
Mais
en vérité, on perturbe un certain nombre de petits écosystèmes puisqu'une lampe solaire de cette nature est toujours occupée par une araignée qui souvent mange les insectes. Les gens imaginent qu'ils font quelque chose, imaginent que c'est bon pour l'environnement, mais la vérité, c'est que la nuit, il n'y a pas de lumière.
Allez, dans quelques instants, pour illustrer les réseaux secrets de la nature, nous verrons notamment quels sont les rapports entre les arbres et les poissons. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Nicolas Bauve, et c'est réalisé par David Leprince. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Bohemian Rhapsody.
Ah, la nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein.
Grand bien vous fasse.
Je bois à la mer nature, aux collines odorantes. Je bois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires.
Sur France Inter.
Et ce matin, nous recevons le forestier Peter Wolleben, qui, après La vie secrète des arbres, publie Le réseau secret de la nature. Avec nous également le spécialiste de la biodiversité Laurent Tillon et la journaliste Christina Pelledouelle.
Einstein aurait dit, si les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Aujourd'hui, les abeilles ne se portent pas très bien. Depuis quelques années, elles meurent. Et pas seulement chez nous. Partout, en Europe, en Amérique du Nord ou même en Chine, plus aucune abeille ne peut survivre sans médicaments.
This is a total loss. And we don't know why.
Un tiers de ce que nous mangeons n'existerait pas sans les abeilles. Qui est le meilleur pollinisateur, l'homme ou l'abeille ?
Extrait du documentaire des abeilles et des hommes. Alors, Laurent Tillon, vous êtes donc un spécialiste de la biodiversité. Les conséquences de la disparition des abeilles sont bien documentées. Voilà un exemple probant des liens subtils qui nous unissent à la nature.
Oui, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on devait remplacer les abeilles, ça nous coûterait environ 3 PIB mondial. C'est considérable. Et en fait, leur rôle est totalement irremplaçable. C'est des petits organismes qui finalement jouent un petit rôle qu'on observe peu, alors sauf quand on s'approche d'une fleur et qu'on voit l'abeille butiner cette fleur. Mais c'est quand même des organismes dont on a absolument besoin, puisque le fait de polliniser les fleurs contribue justement à la production des fruits dont on se nourrit tous les uns et les autres. Et donc la disparition des abeilles est quelque chose de vraiment catastrophique, qui est bien documenté. Je voudrais rajouter aussi qu'on parle beaucoup des abeilles domestiques. Dans ce cas-là, faut pas oublier que de nombreux pollinisateurs sont les pollinisateurs sauvages dont on parle peu, qu'on voit peu, parce que finalement, si les abeilles domestiques produisent en plus du miel, les autres sont relativement éphémères dans un jardin, par exemple. Pourtant, leur rôle est vraiment considérable et elles aussi, malheureusement, sont affectées par le problème constaté sur les abeilles domestiques.
Peter Vollebonn.
Ja, also das ist wirklich ein Problem.
De fait, die Frage für mich ist immer,
ob wir mit zu vielen Negativschlagzeilen nicht
si en écrivant que des choses négatives, on décourage pas un petit peu les gens.
Und deswegen gibt es verschiedene Ansätze und ich
versuche das mehr über quant à moi, j'essaie plutôt de stimuler les émotions positives chez les gens. Puisque c'est ce qui te permet un peu de tenir dans la durée.
Christine Appelé-Doual.
Alors c'est vrai, en ce qui concerne votre livre, que vous nous faites découvrir des choses absolument passionnantes, donc les insectes, les abeilles, les insectes nécrophages, etc. Mais c'est vrai aussi, malgré cet intérêt que vous provoquez, que, à contrario, quand on lit votre livre, on est un petit peu tétanisé, nous, pauvres
humains.
Promeneurs, humains, non scientifiques, en se disant, c'est tellement complexe, c'est tellement délicat, c'est tellement fragile. D'abord, d'une part, qu'est-ce qu'on peut faire ? On parlait des abeilles. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qui ne sommes pas ni industriels, ni paysans, ni agriculteurs, ni producteurs de miel ? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Et d'autre part, que ne faut-il pas faire ? Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de, je trouve, de complexe. Et plus on rentre dans votre livre, plus on découvre ça, et plus on vit au contact de la nature. J'ai un jardin, je le vois tous les jours, et tous les jours, je me pose cette question-là.
Ja, also ich versuche von der Haltung wegzukommen, dass wir für alles ein Rezept bekommen.
J'essaye de dire qu'il n'y a pas une recette magique.
Wir haben heute, möchten heute überall einen Stempel drauf haben.
On aimerait bien okay, avoir une espèce de tampon.
Und das hat jemand zertifiziert.
Voilà, on a une espèce de certificat de bonne action.
Ich finde, wir müssen uns ein bisschen non, mehr Gedanken selber
je pense qu'il faut réfléchir
das einfachste
personnellement.
Ist tatsächlich über den Weg der Liebe. Also wenn wir,
et on peut peut-être utiliser l'approche de l'amour.
Einen Hund haben, den lieben wir.
Imaginez
da muss
que vous avez un chien.
Sagen,
vous l'aimez.
J'en
ai un.
Da brauchen wir keine Gesetze dafür.
On n'a pas besoin de loi pour prendre soin de son animal de compagnie. Et j'imagine la même chose pour la nature.
Wichtig, dass wir Bienen näher erklären, dass wir,
c'est pour ça que c'est important qu'on explique comment fonctionnent les abeilles, mais aussi les arbres.
Und der Rest ist dann relativ einfach. Wir müssen
en découle assez facilement en termes de comportement. Il suffit ensuite de se modérer et de consommer moins.
Laurent Tillon.
Oui, je crois qu'en fait, il faut aussi rassurer les auditeurs. À partir du moment où on va dehors, quand on va en forêt, quand on se promène en forêt, à la fois, on peut avoir un impact sur l'environnement qu'on traverse, mais en même temps, le fait d'aller en forêt nous permet d'avoir un contact à la nature qui est de plus en plus indispensable. En gros, chaque année, 85% des Français vont en forêt, ce qui cumule à peu près 1 milliard de visites par an dans les forêts françaises. On va pas dire non à la visite de ces espaces-là, au contraire. Donc on sait qu'on a un impact. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de rassurer les gens en leur disant, à partir du moment où vous y alliez en toute conscience, à partir du moment où vous entrez dans une forêt en sachant que vous allez avoir un impact, essayez dans la mesure du possible d'être attentif à ce qui vous entoure. Et au fur et à mesure, finalement, en ayant ce regard un peu neuf sur la forêt, on va être plus attentif. Alors qu'avant, par exemple, on avait l'habitude de cueillir peut-être du muguet ou des jonquilles, et là, on va arrêter la fois suivante de les cueillir.
Oui, peut-être que le mot, c'est surtout ne pas intervenir, en faire le moins possible.
Oui, et puis effectivement, au fur et à mesure de changer son regard sur la nature qu'on a l'habitude de visiter. Par exemple, quand on va dans une zone de forêt, c'est très très simple au fur et à mesure d'être attentif à un oiseau qui va se poser sur un arbre, à l'oiseau qui va chanter dans un buisson juste à côté de vous, et puis alors qu'avant on faisait beaucoup de bruit, ben là, de prendre le temps de l'écouter.
Peter Veleben, pourquoi comparez-vous la nature à un grand mécanisme d'horlogerie? Et la question que vous posez, la question centrale tout au long de votre nouveau livre, c'est que se passe-t-il quand on retire un rouage à la grande horloge qu'est la nature?
Au cours
des siècles précédents, nous avons toujours vu la nature comme un grand ensemble de mécaniques. Et nous pensions savoir quelle était la fonction de chaque animal et où était sa place. Et nous voyons aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait vrai, que c'est beaucoup plus compliqué que ce que nous avions imaginé. Actuellement, nous en sommes autant qu'un petit garçon vis-à-vis de la nature qui essaye de démonter et de réparer la vieille montre de son grand-père. Et il est important de comprendre que nous ne comprenons pas les rouages de cette grande machine. Au niveau international, on se demande si ce n'est pas 50% des espaces de la Terre qui ne doivent pas être protégés afin d'éviter qu'ils soient complètement détruits.
Pour bien comprendre les choses, prenons un exemple. Que se passe-t-il quand nous éliminons les loups d'un écosystème? Les loups contribuent à protéger les arbres, c'est ce qu'on apprend en lisant votre livre. Partons dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Au 19e siècle, les loups ont été exterminés sous la pression des fermiers du cru, et vers 1926, la dernière meute de loups disparaît. Quelles sont les conséquences de la disparition du loup dans le parc national de Yellowstone?
Cela a changé le cours des fleuves, par exemple.
Les
cervidés ont pullulé. Les cervidés ont mangé toutes les jeunes pousses des arbres, tous les petits rejetons. Et c'est ce qui a provoqué une érosion des berges des fleuves. Ça a provoqué une disparition des castors. Puis le loup a été relâché une nouvelle fois à Yellowstone. Cela a permis un petit peu d'inverser le cours des choses. Il y a de plus en plus de petits arbres et les castors sont revenus.
Et
ce que nous voyons, c'est que cette évolution est également à l'œuvre en Europe, en France en particulier. Les loups n'ont pas été relâchés, ils sont revenus d'eux-mêmes. C'est important de le comprendre. C'est un retour naturel d'un animal qui en fait n'avait jamais disparu complètement.
Ça, ça s'appelle la cascade trophique, c'est ça?
C'est
l'influence du prédateur sur l'ensemble du monde de la faune et de la flore. Pour le dire simplement, le loup est responsable de la régulation de la population de cervidés. Alors, ce n'est pas son obligation légale, vous l'imaginez bien, mais le loup initie des mouvements. Il y a parfois plus de cervidés, parfois plus de loups, c'est un processus constant.
Laurent Tillon.
Oui, alors c'est vrai que, comme le disait Peter Veleben, c'est en 1992 que les loups sont revenus en France par le secteur, le massif du Mercantour. Et progressivement, les populations se sont réinstallées et ont progressé via les zones de montagne qui sont assez difficiles d'accès. Et pendant longtemps, ils sont restés relativement discrets finalement dans ces massifs. Pourquoi? Parce qu'ils consommaient justement des grands animaux, des cervidés, qui se réfugiaient dans certaines vallées assez étroites ou dans des secteurs de montagne difficiles d'accès pour notamment les gens qui venaient chasser ces animaux. Et ça a changé complètement la manière dont les cervidés se comportaient en zone de forêt. Alors qu'avant, ils pouvaient se rassembler en gros troupeaux, avec un impact très fort sur la régénération forestière. En gros, les jeunes plants se faisaient consommer immédiatement après avoir émergé. Là, la présence du loup a changé le comportement de ces animaux. Les grandes meutes se sont éclatées, en tout cas les grandes hardes de biches se sont éclatées. Et par ailleurs, elles ont toujours un comportement de vigilance avec des individus qui s'inquiètent du moindre bruit. Et donc, les animaux se répartissent partout, avec en effet un petit impact ici ou là avec la consommation de quelques plants, mais globalement, la régénération forestière peut être assurée naturellement.
Peter Willeben.
Wir beobachten das auch in Deutschland.
Wir haben, genug ich weiß gar nicht,
in Allemagne. Frankreich sind das um die 500 Wölfe.
Je crois qu'il y a à peu près 500 loups en France.
Environ entre 400 et 500.
In Deutschland sind das
aktuell. En Allemagne, on en a à peu près 700.
Steigt jedes Jahr um 20-30%.
Et il y a une augmentation de 20-30% chaque année. C'est un vrai succès de l'Union européenne.
Auf dieser Ebene ist der Wolf ja geschützt.
Puisque le loup est protégé au niveau européen.
In so dicht besiedelten Ländern in Deutschland ist die Bevölkerung wesentlich höher
als in Frankreich. Qui sont extrêmement peuplés. La France est encore plus densément peuplée que l'Allemagne. Et donc, c'est un peu difficile d'avoir de si gros animaux dans le paysage, mais c'est un vrai succès au niveau européen. On a parlé de la destruction de la nature, on a parlé d'un avenir qui est peut-être un peu sombre, mais le loup est un excellent exemple que nous pouvons tout changer à chaque instant.
Peter Willeben, une autre illustration des réseaux secrets de la nature, le parallèle entre les arbres et les poissons. Pourquoi la croissance des arbres dépend des saumons ou des truites dans les régions où les sols sont pauvres en nutriments?
In der Natur ist Stickstoff normalerweise ein Mangelfaktor.
Il y a peu d'azote.
Stickstoff ist ein Dünger.
L'azote est un fertilisant.
Und der kam in der Vergangenheit entlang der Flussläufe sogar überwiegend aus Fisch.
C'est sur les berges des fleuves, il y avait de l'azote via les poissons. Les arbres ne pêchent pas, mais ils étaient approvisionnés en poissons via les ours bruns.
Et les grizzlies.
Non, grizzlies.
Zum Beispiel. Aber wir hatten ja auch früher hier mal Bären.
Ici en Europe, il y avait des ours auparavant.
Les ours consomment des poissons.
Et puis, lorsque la nature lui commande de faire ses déjections, il le fait souvent derrière un arbre.
Und der Stickstoff aus Lachsen, das ist ein besonderes
Isotop. Contient cette éjection qui contient de l'azote de poisson.
Bäume entlang von Flüssen hatten früher bis zu 80% ihres Stickstoffs aus Fischen.
80% de l'azote des arbres le long des fleuves auparavant provenait des poissons.
Paris nachweisen.
On peut le regarder aussi au niveau des arbres parisiens, les vieux arbres, qu'on a de l'azote qui provient de poissons. Malheureusement, cette chaîne est interrompue. Il n'y a plus d'ours à Paris, plus du tout. Et c'est maintenant les voitures qui approvisionnent les arbres en azote.
VW Dieselgate, zum Beispiel.
Donc, on connaît tous le Dieselgate de Volkswagen. Il y a énormément d'azote qui est produit par les automobiles. C'est comme s'il y avait 170 000 poissons, saumons, par kilomètre carré par an. Donc c'est beaucoup trop. Et c'est pourquoi les arbres grandissent 30% plus vite qu'auparavant. Et c'est extrêmement malsain pour les arbres.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, les arbres grandissent trop vite, donc ils se fragilisent. C'est ce que vous expliquez. Donc voilà, encore une fois, c'est un exemple de ces chaînes. Alors d'un côté, des chaînes vertueuses, celles de la nature, et de l'autre côté, des chaînes infernales, du côté de la production industrielle, de la pollution, etc. Alors, c'est compliqué d'arriver à faire marcher le tout ensemble. Est-ce que vous, de votre point de vue, alors j'ai une question, vous parliez de l'Europe, une question sur l'Europe, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir si entre forestiers de chaque côté de la frontière, il y a des collaborations, des échanges d'informations, des échanges d'expériences, des échanges de travaux.
C'est pourquoi je suis content qu'on fasse cette émission. On a réussi à se réunir à deux forestiers autour de la même table. Mais je vous donne complètement raison. Le réseau de la nature nous concerne aussi.
Et
ce qu'on connaît dans l'économie privée, en termes de coopération, on ne le connaît pas dans le secteur de la foresterie. Et c'est dommage, mais il faudrait l'intensifier.
Laurent Tillon.
Oui, je confirme effectivement ce que dit Peter Willeben. On se voit malheureusement peu souvent. Alors moi, par chance, j'ai plein de contacts avec des spécialistes de la biodiversité forestière, puisque c'est le cœur de mes sujets. Et donc, on a la possibilité d'échanger et donc, du coup, d'impulser aussi des dynamiques. Je pense en particulier, il y a un groupe d'espèces que j'apprécie particulièrement, que sont les chauves-souris, et notamment les chauves-souris forestières. On a depuis quelques années des relations très fortes entre scientifiques et spécialistes de ces espèces pour aller vers des actions de gestion conservatoire visant la protection de ces espèces.
Peter Willeben, quel est le lien entre les grues cendrées qui migrent vers le sud et la production de jambon ibérique, de cochons élevés aux plantes herbacées et aux glands? Quelle est l'influence de ces grues cendrées sur la production de ce jambon produit en Estrémadure?
Ja, das ist ein schönes Beispiel, was über den, ja, was über den europäischen Kranich geht.
Excellent exemple que vous donnez sur les grues cendrées.
Weil der Schutz des Kranichs, der ist sehr erfolgreich durchgeführt.
La protection de la grue a été très efficace.
Die Gebiete nehmen zu, die Zahl der Kraniche.
Les zones de ponte ont été élargies.
Ein toller Erfolg.
Et les populations augmentent. C'est vraiment un beau succès.
Dass der Kranich in den Überwinterungsgebieten auch Nahrung braucht.
Les grues ont besoin également
viele Kraniche fliegen nach Spanien,
de ressources und dans les zones d'hivernage.
Fressen dort
donc elles vont en Espagne et elles mangent les glands.
Die Eichenwälder, zum Beispiel in der Extremadura,
et en Extremadura, les forêts de chênes sont toujours présentes, car les éleveurs de sangliers, de porcs,
les
ont protégés. On imagine que le fait que les grues mangent la nourriture de leurs cochons ne réjouit pas forcément les éleveurs.
Donc
on pourrait se dire, bon bah, on abat les grues, c'est pas forcément une solution pour laquelle je milite.
Wir brauchen auch anstelle der nicht nur die Brutgebiete, sondern wir brauchen auch bessere Überwinterungsgebiete.
Nous avons donc pas, seulement besoin de zones de ponts protégées, mais également de zones d'hivernage.
Wir brauchen mehr Eichenwälder in Spanien.
Il nous faut donc plus de forêts de chênes en Espagne.
Von Natur aus ein Laub-Urwaldland, ein Eichen-Urwaldland.
L'Espagne est une zone de feuillus.
Und wir sagen heutzutage, Spanien, das ist doch das Land der Pinien.
On pense plutôt aujourd'hui à l'Espagne comme un land de pain. Mais ça n'est pas le cas, naturellement.
Le problème, c'est que l'élevage de ce cochon en Espagne motive la population à conserver les chênaies. Au fil des siècles, notamment en Espagne, l'homme a planté de plus en plus d'eucalyptus. Le problème, c'est que cette modification de l'écosystème n'est pas forcément une bonne chose. L'eucalyptus pousse plus vite qu'un chêne, mais il est aussi responsable de l'explosion des feux de forêt.
Ja, richtig. Also deswegen kann man nur sagen, die Haltung der Schweine fördert den natürlichen Wald. Also es ist ein schönes Beispiel,
l'élevage des cochons
wie menschliche Kultur
protège la forêt, mit Natur d'une certaine manière. C'est un bon exemple de coopération humaine et naturelle
der Forstwirtschaft entre l'homme et la nature. Bäumen, das hat dazu geführt, dass Portugal die Waldbrandstatistik
conduit au fait que le Portugal est devenu un pays très touché par le feu de forêt. Naturellement, il y avait très peu de feux de forêt au Portugal.
Donc on
voit que si on se concentre uniquement sur la production de bois,
il
y a d'autres indicateurs qui deviennent tout de suite rouges.
Deswegen will ich dafür mehr Schweine, mehr Eichen und dann haben es auch die Kraniche besser.
Je suis pour le fait de multiplier la population de cochons et de chênes afin de favoriser aussi l'hivernage des grues.
Laurent Tillon.
Ouais, je rebondis sur cet exemple-là parce que on s'est rendu compte, par exemple, dans la constitution de nos forêts, que on les avait laissées pendant longtemps, notamment à totale possibilité pour les habitants d'avoir des cochons et d'aller les laisser pâturer, notamment en forêt. Et dans nos forêts royales historiques, notamment toutes les forêts domaniales qu'on voit aujourd'hui, il y avait souvent donc ces gros chênes qui produisaient des glands dont les cochons se nourrissaient, et finalement ça contribuait vraiment au fonctionnement de tout l'écosystème forestier de l'époque.
Allez, n'hésitez pas à témoigner sur la page Facebook de notre émission.
Le printemps est ici. La rose précède la chaleur.
canine, interprété Jardin.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, nous recevons le forestier Peter Veleben, le spécialiste de la biodiversité Laurent Tillon, et avec nous également Christina Pelledouelle.
Regardez cet arbre. Ça paraît fou, mais il est connecté à l'autre. Comme un couple d'amoureux, ils prennent soin l'un de l'autre et poussent de façon à ne pas se gêner. Ici, les branches les plus grosses ne vont pas vers son ami, mais dans la direction opposée, vers l'extérieur, comme s'ils respectaient l'espace de l'autre. Et au niveau des racines, à l'inverse, ils sont complètement entrelacés, comme s'ils ne formaient qu'un. Et si l'un des arbres venait à tomber, alors l'autre mourrait très vite ensuite. C'est comme un vieux couple qui a passé sa vie ensemble. Celui qui reste n'a plus envie de vivre.
Peter Veleben, on vient de vous entendre dans ce reportage d'Envoyé spécial. Il existe donc une interdépendance entre les arbres. Dans votre nouveau livre, Le réseau secret de la nature, vous montrez qu'il existe également des liens entre les forêts, les arbres et le climat. Quelle est cette influence des arbres sur la formation des nuages ?
Il y a des recherches qui ont été faites en Sibérie
qui montrent que quand les épicéas sont trop chauds, émettent du CO2. Et ce qui provoque une formation de nuages augmentée de 50%.
Et
on sous-estime souvent l'effet refroidissant des arbres sur le réchauffement climatique. Nous avons des recherches récentes de l'Université d'Aix-la-Chapelle, des études de forestières, qui montrent que les forêts industrielles sont beaucoup plus chaudes que les forêts naturelles, de 10 degrés. En moyenne, par exemple, les vieilles forêts, de hêtres qui ne sont pas entretenues par l'homme, 10 degrés. On imagine que dans la ville, c'est encore plus chaud. Donc ça montre que si on montre les grandes forêts tranquilles, eh bien, on a une contribution importante au refroidissement du climat.
Quels sont les effets du réchauffement climatique sur les forêts ? Comment le changement climatique affecte les arbres ? Est-ce que vous avez quelques exemples ?
Sur les forêts du Nord, ça a d'énormes conséquences puisque les températures augmentent beaucoup plus rapidement que chez nous. Si je parle bien de forêts, mais pas de plantations, si on laisse les forêts tranquilles, ça n'a que peu d'effet. Naturellement, les arbres vivent extrêmement longtemps et ils sont en mesure d'encaisser et d'équilibrer les changements de température. Mais il faut que leur système social de coopération soit intact.
Laurent Tillon.
Oui, et ce qui est important, c'est effectivement les effets notamment de ce changement de température dont parlait Peter Veleben, mais aussi tous les effets qui sont induits. En particulier sur tous les ravageurs des arbres et des forêts. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui étaient cantonnées et limitées sur des petits secteurs de forêt et qui n'arrivaient pas à s'étendre suffisamment pour affecter des forêts entières. Aujourd'hui, on a notamment des insectes ou des champignons qui, par le jeu du réchauffement climatique, progressent au risque d'affecter des forêts entières sur des surfaces considérables. Et notamment ces derniers temps, on a vu en France une recrudescence de l'expression des scolytes, ces petits insectes qui mangent notamment les résineux comme les épicéas ou les sapins, avec des ravages considérables sur parfois des centaines et des centaines d'hectares.
Peter Veleben, quel est votre engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
Aussi une bonne question de votre part. Je voyage beaucoup à cause de mes bouquins et donc j'ai un bilan carbone désastreux. Mais j'essaie d'agir au niveau politique. Je soutiens par exemple une tribu indienne au Canada. Il y a 500 km² qui doivent être rasés de forêts ratiboisé par l'industrie de la sylviculture. Mon livre, c'est aussi un best-seller au Canada. Et on est en train, grâce à mon poids, d'empêcher ce ratiboisement. Donc on peut faire le calcul suivant. En prenant un avion pour aller là-bas, j'ai émis 5 tonnes de CO2, mais par kilomètre carré épargné, c'était 100 000 tonnes de CO2 qui auraient été sauvées. Absorbé par cette forêt. Donc le calcul est simple.
Peter Veleben, à quoi ressemblerait un monde sans forêt, sans arbres ?
Die Welt wäre sehr heiß
und
etwas sauerstoffärmer und vor allem
avec moins d'oxygène
könnten da keine 7,3 Milliarden Menschen leben.
Et sur, et dans lequel il ne pourrait pas y avoir 7,3 milliards d'êtres humains.
Laurent Tillon.
Ouais, effectivement, absolument. Si malheureusement les forêts disparaissaient de nos paysages, il y aurait des effets en cascade qui arriveraient avec notamment effectivement une augmentation de la température, avec une plus forte difficulté notamment dans nos systèmes actuels de production de fruits, légumes, etc., d'avoir des pollinisateurs qui vont se réfugier en forêt, qui après pollinisent nos légumes. Et puis, on aurait aussi tous ces espaces de nature dans lesquels nous, on va se ressourcer pour être bien au quotidien. Et ça nous manquerait profondément. Inévitablement, l'homme serait affecté, voire il disparaîtrait de la planète.
On serait moins heureux, Christine Lapéry.
Moi, je pense qu'on serait totalement déprimé. C'est atroce. Enfin, c'est une idée atroce. Je veux même pas l'envisager.
Pour terminer sur une note optimiste, quelle est la forêt qui vous émerveille le plus ? En dehors de la hêtraie, vous travaillez Peter Wohlleben.
Der verbleibende Küstenregenwald in British Columbia, weil
en Colombie-Britannique, il y a une forêt absolument splendide, des arbres extrêmement anciens, et on sent comment ça fonctionne, et c'est ce que je souhaite aussi aux êtres humains.
Laurent Tillon.
Moi, en fait, la forêt qui me parle le plus, c'est probablement celle dans laquelle on arrive à concilier les différents enjeux. Faire des forêts, des espaces dans lesquels on trouverait absolument pas l'homme, c'est quelque chose d'impossible et d'impensable. Donc une forêt dans laquelle on pourrait avoir des espaces qui sont peut-être dédiés en effet à la biodiversité, d'autres dans lesquels on permet notamment aux gens d'avoir accès absolument à tout ce qui est lié à la forêt, à son fonctionnement, à ses odeurs, à ses couleurs, pourquoi pas. Mais je pense que la forêt idéale, c'est un peu la forêt dans laquelle on arrive à concilier tous les enjeux.
Laquelle par exemple ?
Eh ben, par exemple, beaucoup des forêts, notamment la forêt de Fontainebleau, très chère à Christina, mais aussi la forêt de Rambouillet ou plein d'autres forêts domaniales dans lesquelles on travaille et on œuvre maintenant depuis pas mal d'années, notamment les experts de la biodiversité, mais aussi les forestiers qui sont présents localement pour essayer de concilier justement ces trois enjeux. Et c'est l'un des enjeux forts du siècle qui est en face de nous.
Christina Pelédoile.
Pour moi, la plus belle des forêts, c'est la mienne, évidemment, celle de la forêt de Fontainebleau, mais pour des raisons qui sont assez compréhensibles. D'abord, c'est une forêt ancienne, mais c'est aussi une forêt qui a été et qui continue d'être exploitée, qui était une forêt royale, une forêt de chasse, donc qui concilie l'ancienneté de la forêt et le fait que ça soit une forêt contemporaine. On trouve encore des pétroglyphes en forêt de Fontainebleau, donc c'est quand même extraordinaire.
Ben si on trouve des pétroglyphes, alors.
Eh ben oui, mais je vous emmènerai à lire.
Merci beaucoup, Peter Wohlleben. Je recommande vraiment la lecture de votre nouveau livre, Le réseau secret de la nature. C'est publié aux Arènes. Merci, Laurent Tillon. Et Si on écoutait la nature, c'est publié chez Payot. Et ce livre a reçu le prix de la biodiversité 2018. Merci, Christina Pelédoile. Et merci à l'excellente traduction de Xavier Ruiz. Tout de suite, il est enfin arrivé. L'éternel retour d'Éric Libio de l'Express. L'éternel retour d'Éric Libio de l'Express. Vous êtes enfin arrivé, Éric. Hein ?
Ben oui, vous savez ce que c'est, un réveil comme ça qui a du mal, un métro qui n'arrive pas et crac-boum, et voilà, nous voilà un peu en retard, pardon.
Allez, au programme de l'éternel retour.
Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est le début du pont, comme dirait un des personnages de Tintin, qui va nous mener jusqu'à lundi. Lundi, jour férié, puisqu'il s'agit du 1er mai, fête mondiale ou quasi mondiale du travail. C'est ainsi l'éternel retour du 1er mai. Jour férié où on ne fait rien, si ce n'est défiler en mode syndical et acheter du muguet. Drôle de plante d'ailleurs que ce muguet, qui symbolise le retour du bonheur dans le langage des fleurs et dont les graines sont très toxiques. Toxiques surtout chez l'enfant, beaucoup moins chez l'adulte ou alors juste un brin. D'où l'idée d'interdire l'exposition de l'enfant au travail alors que l'adulte, lui, a le droit de travailler. Parce que oui, le travail est un droit selon le premier alinéa de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Un drôle de droit finalement lorsqu'on sait que le mot travail vient du latin tripalium qui était un instrument de torture utilisé par les Romains pour punir les esclaves. Tout est quasiment dit ici. On est donc en droit, justement, de se poser la question, le travail est-il toxique ou pas ? Certains métiers le sont, on le sait, mais qu'en est-il du concept du travail lui-même ? Voilà un très joli sujet de philo pour le prochain bac, le bac à fleurs, évidemment. Je signale d'ailleurs, petit point historique et politique, que le muguet n'a pas toujours été associé à la fête du travail, puisque le premier homme politique à émettre l'idée d'une fête du travail était Philippe-François Nazaire Fabre, dit Fabre d'Églantine.
Ah.
Et qu'en son honneur, on a longtemps porté une églantine à la boutonnière. Voilà, je vous apprends quelque chose, mais moi-même je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Pour mémoire d'ailleurs, c'est Raymond Lavigne, un syndicaliste bordelais, ça ne s'invente pas avec un tel nom, qui instaura le 1er mai. Et le premier 1er mai eut lieu en 1890. Personne ne portait la feuille de vigne en hommage à Raymond Lavigne, ce qui aurait pu être amusant de voir les syndicats à poil dénonçant les patrons désirés de plumer les salariés. Mais non, lors de ces premières manifs, tout le monde arborait donc une églantine, dont la fleur est une rose avec épines et pétales. Alors je ne sais toujours pas si la nature peut sauver le monde, mais enfin, elle peut déjà raconter le monde car il n'y a pas de fumier sans feu. Il est tout de même étrange et signifiant que le travail soit ainsi symbolisé à la fois par une plante toxique et par une fleur à épines. Non pas que le travail soit à ce point dangereux et détestable, mais enfin, il faut toujours regarder à travers le miroir pour se rendre compte de l'entièreté des choses. D'un côté donc, il y a un mignon muguet avec ses petites fées clochettes et une belle rose avec ses couleurs écarlates et ses pétales soyeux. Mais de l'autre côté, la réalité est parfois un peu moins reluisante quand la fleur s'apparente à un leurre et joue les injonctions contradictoires. Ça me rappelle une scène de La Sirène de Mississippi, Ali, reprise dans Le Dernier Métro, deux films de François Truffaut. Une phrase dite par Bébel et l'autre par Depardieu, qui disait « Aimer est une joie et une souffrance ». Eh bien finalement, travailler aussi peut être une joie et une souffrance. Et ça, c'est la nature qui nous le dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et revient toujours.
L'éternel retour d'Éric Libiot de l'Express à vendredi prochain. Mon cher Éric, merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Perret. Lundi, on s'intéresse à l'histoire des anti-vaccins. À suivre, Nagui et sa bande originale.